le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marcilli.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain.
En ce dernier épisode du mois de septembre, un salut particulier aux étudiants qui finissent leur rentrée. Vu la part significative de moins de 25 ans parmi nos auditeurs, beaucoup sont concernés. Et puis, étudiants ou anciens étudiants, vu vos très nombreux retours enthousiastes et constructifs, n'hésitez pas non plus à nous mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous est très précieux.
Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique et de bien d'autres choses. Alors que l'attention est concentrée sur l'escalade de la guerre en Ukraine, nous évoquerons aujourd'hui le conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh.
L'Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue la semaine dernière à New York et les leçons que nous pouvons en tirer.
L'échec de la fusion annoncée entre TF1 et M6.
Et pour terminer, nos coups de cœur de la semaine.
Alors Romain, c'est vrai qu'on a une actualité aujourd'hui très riche, notamment sur le plan international. On aurait pu aborder beaucoup de sujets. Il y a évidemment une escalade extrêmement inquiétante dans le conflit en Ukraine, avec un discours assez marquant de Vladimir Poutine cette semaine, une mobilisation partielle en Russie. Il y a des événements en Iran sur lesquels on a beaucoup échangé tous les deux, qui pourraient être extrêmement importants pour l'avenir de ce pays, et un courage extraordinaire exprimé par les femmes en Iran. Mais on a voulu revenir aujourd'hui sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, notamment au Haut-Karabakh. On a voulu revenir sur ce conflit, toi et moi, parce que nous pensons que c'est un conflit qui n'est pas assez traité dans les médias, qui est un peu un conflit oublié, alors qu'il y a notamment des liens historiques extrêmement forts entre l'Arménie et la France. Il y a beaucoup de Français d'origine arménienne qui, au cours des dernières décennies, ont contribué à façonner notre pays, aussi bien dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique, dans tous les domaines, et donc qui ont construit l'identité française. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devrions, nous, accorder probablement plus d'attention, beaucoup plus d'attention à ce conflit. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de revenir aujourd'hui dessus.
Oui, bien d'accord avec toi. Il s'agit d'un conflit qui passe un peu, il faut le dire, au second plan médiatique, non seulement parce que la guerre russe en Ukraine éclipse tout, mais aussi parce qu'il dure depuis tellement de temps, ce conflit en Arménie. Alors, avec certes des développements récents sur lesquels on va revenir, mais il dure depuis tellement de temps qu'il a provoqué aussi, malheureusement, une certaine lassitude médiatique, alors que s'y jouent des éléments fondamentaux. C'est un conflit qui, en France, nous touche, tu l'as dit, étant donné l'importance de la communauté arménienne. Je pense qu'il faut aussi dire que c'est parce qu'il s'agit aussi d'un peuple chrétien d'Orient très menacé. C'est une cause qui touche beaucoup, on va y revenir aussi. Et puis, il y a aussi dans notre, au-delà de la communauté arménienne en France, dans notre imaginaire collectif ici, tout ce qu'on a en tête, cette litanie de drames qui ne cesse de toucher ce peuple. On va y revenir, mais victime d'un génocide au début du XXe siècle, puis le joug soviétique, puis le terrible tremblement de terre. Je ne sais pas si tu te souviens, on était très petits, mais il y avait eu une vague de solidarité énorme. Et puis, depuis son indépendance il y a 31 ans, ce conflit avec l'Azerbaïdjan. Donc les affrontements ont repris cet été, de plus belle, malheureusement. Ils ne concernent pas que le Haut-Karabakh, cette région proclamée autonome, peuplée largement d'Arméniens, mais revendiquée par l'Azerbaïdjan. Et on ne voit pas comment, sans soutien international et sans soutien aussi de la Russie, gendarme impuissant dans une zone censée être d'influence autour de l'ancienne URSS, l'Arménie pourrait à moyen, voire à court terme, conserver son intégrité territoriale. Donc ce qui se joue là dépasse largement un simple conflit territorial entre deux peuples. Quel est ton regard sur ce conflit ?
Je pense que c'est un conflit. D'abord, pour en parler, il faut le remettre en perspective sur le plan historique. Tu as commencé de le faire, mais c'est important parce que c'est un conflit, comme tu l'as dit, qui est très ancien, qui est très complexe. Et je pense qu'il génère beaucoup de réactions viscérales de part et d'autre. Et il est tout à fait normal, je pense d'abord, de rappeler les faits. La première chose, c'est de rappeler que le Haut-Karabakh est une terre qui, depuis l'Antiquité, et là, quasiment la Grande Arménie, est peuplée majoritairement, comme tu l'as dit, d'Arméniens. Ensuite, il y a eu toute une série de dates importantes qui ont jalonné son histoire. Alors, tu as mentionné une date fondamentale, c'est 1915, c'est le génocide arménien, où le gouvernement des jeunes turcs au pouvoir à Ankara décide alors d'en finir avec la minorité arménienne qui vivait dans l'actuelle Turquie. Et à l'époque, des populations arméniennes dans le Haut-Karabakh sont massacrées. C'est quand même plus de 1 500 000 Arméniens ottomans qui, à l'époque, périssent. Et c'est un génocide qui est toujours nié aujourd'hui par l'État turc. Ensuite, tu as, au moment, je fais un petit peu un saut dans l'histoire, mais en 1921, c'est les débuts de l'URSS, et à l'époque, tu as un commissaire aux nationalités, c'est pas encore le maître du Kremlin, qui s'appelle Joseph Staline, et Joseph Staline décide, dans la nouvelle URSS, de rattacher le Haut-Karabakh, non pas, ce qui aurait pu sembler logique, la République socialiste d'Arménie, mais à la République socialiste d'Azerbaïdjan. Et c'est intéressant parce qu'il le fait à l'époque pour deux raisons. D'une part, parce qu'il considère que pour mieux régner et mieux contrôler le Caucase, région stratégique pour Moscou, il faut diviser. Et il sait que là, il a un facteur de division. Et deuxièmement, à l'époque, déjà, l'Azerbaïdjan commence à produire pas mal de pétrole, un pétrole dont l'URSS va avoir besoin. Staline en est conscient. Et donc, c'est donner un gage à Bakou dont il sait qu'il va avoir besoin que de donner le Haut-Karabakh.
Staline étant un connaisseur particulier de cette région dont il était originaire, puisqu'il est géorgien.
Absolument. 1988, on est encore sous la période soviétique, et là tu as un mouvement de masse au Haut-Karabakh, où un mouvement de masse appelle au rattachement du Haut-Karabakh à la République socialiste d'Arménie. À l'époque, l'armée rouge s'y oppose, souhaite neutraliser les frontières telles qu'elles sont dessinées dans l'URSS. Le conflit dure pendant 3 ans, c'est un mouvement très violent, et après 3 ans, en 1991, chute de l'URSS, à ce moment-là, Moscou prend du recul, essaie de se mettre dans une posture plus de neutralité, mais aussi parce qu'à l'époque, à Moscou, il y a beaucoup de changements et le pouvoir est absorbé par d'autres sujets. L'Arménie et l'Azerbaïdjan prennent leur indépendance. L'Arménie ne réclame pas à ce moment-là le rattachement du Karabakh à l'Arménie, et le Haut-Karabakh, lui, déclare unilatéralement son indépendance. Tu vas avoir ensuite un conflit absolument sanglant en 1993-1994, tu auras des dizaines de milliers de morts. Et à l'issue de ce conflit, il y aura ensuite une paix très fragile qui va se dessiner jusqu'en 2020. Et en 2020, on s'en souvient, à ce moment-là, l'Azerbaïdjan attaque au Karabakh, attaque les positions arméniennes. Il y a des milliers de morts, notamment côté arménien. Beaucoup de jeunes hommes qui perdent leur vie à ce moment-là dans ce conflit-là. C'est une victoire militaire pour l'Azerbaïdjan. Il y a un cessez-le-feu qui est conclu après plusieurs mois de conflit, mais un cessez-le-feu très fragile qui est censé être... les troupes russes sont censées le faire respecter. Il y a un envoi d'à peu près 2000 soldats russes à ce moment-là au Haut-Karabakh, mais il y a des incidents permanents. Il y a notamment beaucoup de paysans, de villageois au Haut-Karabakh d'origine arménienne qui sont constamment harcelés par les soldats azerbaïdjanais. Et finalement, reprise des hostilités à la fin de cet été, comme tu le soulignais. Donc on le voit, c'est une histoire extrêmement compliquée, faite de turbulences et dont les plus récents sont à nouveau dramatiques.
Et qui implique, parce que finalement, le Karabakh, on pourrait dire, bon, c'est un petit endroit, un conflit entre deux peuples, parce qu'il y a eu des ambiguïtés dans l'histoire, voilà, c'est aussi les fruits de beaucoup d'atermoiements. Mais finalement, cet espace aujourd'hui est au cœur d'un conflit beaucoup plus vaste qui implique des grandes puissances, une dimension géopolitique évidente dans ce conflit qui dépasse donc cette région. Parce qu'on a là un conflit, au-delà de ce que tu viens de t'expliquer, un conflit assez symbolique d'un deux poids deux mesures et de l'importance du soft power, je trouve. Parce que malgré une situation tendue et l'agression, une guerre, voilà, l'Azerbaïdjan est de mieux en mieux intégré au concert des nations, notamment grâce à son soft power. Pour rappel, le président Aliyev est également secrétaire général des non-alignés, de la conférence des non-alignés à l'ONU. Et puis, à titre plus anecdotique, on avait parlé il y a quelques épisodes, si la Russie est bannie de beaucoup d'événements, notamment sportifs, le Grand Prix d'Azerbaïdjan a été reconfirmé. Il y a quelques années, l'Azerbaïdjan accueillait une finale de l'Eurovision. Et on parlait même d'une diplomatie du carnet de chèques, avec beaucoup de philanthropie menée partout, notamment en Europe, pas l'Azerbaïdjan. Donc cette dimension vraiment géopolitique de ce conflit, je trouve, est passionnante pour un si petit espace, en fait.
Ce qu'il faut bien voir, et c'est un conflit où il faudrait presque avoir une carte devant les yeux, en fait, pour le comprendre. Le Caucase, mais ce territoire en particulier, est à l'intersection historique de 3 empires. Au nord, l'Empire russe, à l'ouest, l'Empire ottoman, et au sud, l'Empire perse. Et aujourd'hui, donc, 3 puissances, la Russie, la Turquie et l'Iran. Il y a un jeu très fort entre ces 3 puissances. Pourquoi ? Parce que historiquement, la Turquie est un allié de l'Azerbaïdjan, est un ennemi irréductible de l'Arménie, et donc, notamment lors du dernier conflit en 2020, mais également plus récemment, le régime turc d'Erdogan soutient militairement, de manière très forte, l'Azerbaïdjan, a également envoyé en 2020, c'était le cas, des djihadistes syriens combattre contre les Arméniens dans le Haut-Karabakh. Donc il y a une volonté en fait d'influence très forte d'Erdogan aujourd'hui dans le Caucase. Et donc ça, c'est une première dimension géopolitique et qui s'explique par le fait que l'Azerbaïdjan, c'est aussi un peuple turcophone. Et donc, il y a ce grand rêve historique chez une partie des élites turques de recréer ce grand espace turcophone. Et si on regarde une carte, on voit bien que l'Arménie, bah, c'est en fait ce qui empêche de créer cet ensemble turcophone, puisque c'est un verrou chrétien au milieu de cet ensemble turcophone. Deuxièmement, tu as la Russie au nord, donc là, qui a essayé de bâtir une position bon an mal an de médiatrice dans ce conflit. Et ce que l'on a vu en 2020, lors du dernier conflit, c'est que la Russie, au début, n'a pas réagi. Historiquement, les Arméniens pensaient pouvoir s'appuyer sur la Russie. Poutine a laissé faire dans un premier temps, pour aussi faire payer probablement au nouveau Premier ministre arménien à l'époque sa volonté un petit peu d'indépendance plus grande et de rapprochement vers l'Union européenne.
Ce qui relativise si besoin l'espèce de fantasme qu'il y a chez beaucoup de gens en Europe de Poutine, grand défenseur de la chrétienté.
Tout à fait, je pense que c'est un point très important à souligner. Et ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est que bon, la Russie évidemment est prise complètement dans le conflit ukrainien, et qu'on peut soupçonner l'Azerbaïdjan d'avoir considéré à la fin de l'été que c'était aussi un moment propice pour intervenir. Et puis tu as, et c'est, je trouve, extrêmement intéressant, l'Iran. Alors l'Iran, beaucoup de nos auditeurs, peut-être, qui ne sont pas très familiers avec ce conflit, vont se dire, l'Iran, pays chiite musulman, va être un allié objectif de l'Azerbaïdjan, qui est également un pays à majorité chiite. Mais en fait, l'Iran est un allié et a des relations très fortes avec l'Arménie. Pourquoi ? Parce qu'au nord de l'Iran, tu as des minorités azéries qui, de manière régulière, ont des volontés sécessionnistes, de rattachement à l'Azerbaïdjan. Et donc, tout expansionnisme de l'Azerbaïdjan est vu comme une menace par le pouvoir à Téhéran. Et donc, en fait, il y a une alliance de fait entre l'Arménie et l'Iran. On le voit donc, c'est un conflit qui est vraiment à l'intersection de trois grandes puissances. Et c'est ça qui le rend si à la fois intéressant, mais aussi si terrible pour les populations qui vivent sur le terrain, parce qu'elles paient le prix du jeu de ces grandes puissances.
On parle souvent en Europe de la poudrière des Balkans. On voit bien que dans le Caucase, c'est tout aussi fort et peut-être encore plus complexe. En France, on insiste beaucoup sur la nature très religieuse du conflit. Et c'est d'ailleurs, il faut leur rendre hommage, grâce aux personnes particulièrement engagées dans la défense des chrétiens d'Orient, que l'on entend parler du conflit, sinon on en aurait beaucoup. On en a peu parlé, mais voilà, l'aspect religieux apparaît beaucoup plus complexe, notamment avec les divisions au sein de l'islam.
Oui, et je trouve que c'est une question absolument fondamentale et très sensible. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce conflit au Karabakh, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, peut être vu sous une grille de lecture purement religieuse, purement quasiment de clash des civilisations à la Samuel Huntington? C'est une question très compliquée, mais je dirais que si on répond oui en balayant d'un revers de main toute autre option, je trouve que c'est une vision simpliste. C'est une vision simpliste parce que, comme on vient de le dire, il y a une dimension géopolitique très forte. L'Iran, pays musulman chiite, soutient l'Arménie. À l'inverse, Israël est un allié très fort de l'Azerbaïdjan. Israël a été un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Azerbaïdjan en 91, fournit énormément d'armes à l'Azerbaïdjan. On voit bien que donc les clivages religieux s'effacent parfois devant des réalités géopolitiques. Et en même temps, nier la dimension religieuse du conflit serait, à mon avis, naïf et une erreur. Pourquoi ? Parce que tu as une puissance aujourd'hui, la Turquie, d'Erdogan, qui a une double matrice dans sa politique étrangère. Matrice nationaliste, et je pense qu'une des volontés d'Erdogan, c'est de recréer ce grand espace turcophone de la mer Caspienne à la mer Noire, et que donc il y a une vraie volonté nationaliste dans la manière dont il soutient l'Azerbaïdjan et envoie des armes et plus pour combattre les Arméniens. Mais en même temps, il y a incontestablement une dimension religieuse aujourd'hui dans la politique d'Erdogan, une volonté, c'est un frère musulman, une volonté quasiment de recréer une forme d'ensemble religieux dans la région. Et donc, on ne peut pas nier non plus que dans la propagande aujourd'hui en Azerbaïdjan, notamment dans les nouvelles générations, il y a une dimension religieuse très forte. Et c'est d'ailleurs assez frappant, quand tu t'intéresses aux Azerbaïdjanais et au peuple azerbaïdjanais, il y a une vraie aujourd'hui différence entre l'ancienne génération, qui parfois a coexisté avec les Arméniens au Haut-Karabakh. Ils étaient voisins, ils vivaient ensemble. Et donc, il y a eu des tensions très fortes, toujours, mais il n'y avait pas tellement cette dimension religieuse qui aujourd'hui est beaucoup plus présente et donc beaucoup plus dangereuse dans les nouvelles générations.
Oui, et tu as mentionné donc les trois empires, en fait, qui sont frontaliers, parties prenantes dans le Caucase. Il y en a un autre qui n'est pas un empire, mais il y a une force politique qui est également impliquée, c'est quand même l'Union européenne. Et je pense que c'est aussi important pour nous. Déjà, il faut dire que dans le contexte de la crise énergétique, il y a eu un accord, il y a des accords importants pour le gaz de l'Azerbaïdjan entre l'UE et l'Azerbaïdjan. Donc là, bien évidemment, c'est un élément de contexte immédiat. Mais il y a aussi, si on prend un peu plus de recul historique, des liens énormes entre l'UE et l'Arménie. Déjà, si on parle de l'UE, il y a un accord de partenariat élargi qui existe depuis la fin des années 90. Peut-être même que lorsqu'on parle de communauté politique très très élargie, Ursula von der Leyen ou d'autres, sûrement pas Ursula von der Leyen d'ailleurs, vu le contexte, mais peut penser à des partenariats avec des pays comme l'Arménie. N'oublions pas non plus que l'Arménie fait quand même partie de l'organisation de la francophonie, dont nous parlions aussi, donc un lien en théorie privilégié. Or, l'UE apparaît quand même très absente dans ce conflit. Elle n'a pas les moyens d'une puissance ou d'une intervention diplomatique, encore moins militaire, de manière à peser dans ce conflit.
Romain, je vais te dire très honnêtement, moi, la diplomatie de l'Union européenne dans ce conflit me fait honte. Le fait est qu'en 2020, l'Union européenne était complètement absente. On a complètement laissé ce conflit aux mains, dans un premier temps, de la Turquie d'Erdogan, et de la Russie de Poutine ensuite. Et ensuite, il y a eu quelques tentatives extrêmement timides de médiation, y compris récemment. Hein, Charles Michel, le président du Conseil européen, a reçu le président Aliyev et le Premier ministre arménien à Bruxelles plusieurs fois pour des négociations de paix. Mais le fait est que l'Union européenne n'a pas vraiment joué un rôle. Le 18 juillet 2022, il faut quand même le rappeler, Ursula von der Leyen s'est rendue à Bakou, a signé un accord avec l'Azerbaïdjan à ce moment-là pour doubler les livraisons de gaz en provenance d'Azerbaïdjan, pour notamment compenser la perte de gaz russe. Et le fait est qu'il n'y a pas eu un mot à ce moment-là sur le conflit au Haut-Karabakh qui a été prononcé. Donc d'une part, il y a aujourd'hui, je trouve, une politique qui est très cynique de la part de l'Union européenne. Alors on pourrait dire c'est une forme de réelle politique, mais dans les faits, c'est surtout une perte d'influence complète de l'Union européenne dans la région, alors que tu le rappelais, je rappelle quand même que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont deux pays qui font partie du partenariat oriental de l'Union européenne. Et puis deuxièmement, ça pose une question plus fondamentale, je pense, qui est que tu fais face à une puissance, la Turquie, qu'on peut critiquer à bien des égards, mais le fait est que Erdogan aujourd'hui, il a une politique de puissance. Il défend ses intérêts. Alors, moi, je ne les partage pas. J'ai une vision diamétralement opposée à la sienne, aussi bien sur les questions diplomatiques que de société. Mais le fait est que lui, il défend ses intérêts et il mène une politique très dure sur le plan en matière étrangère, que ce soit dans le Caucase, en Libye, dans pas mal de régions dans le monde. Et face à ça, tu as une Union européenne qui est absente, qui est naïve, qui n'ose pas assumer toute logique de puissance. Et le fait est aujourd'hui qu'on n'est pas capable de défendre ni nos alliés, ni nos intérêts.
Nous sommes tout à fait d'accord dans cette impuissance. Il faudrait voir quelle est la part de cynisme et quelle est la part aussi, tout simplement, d'incompétence, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir jouer cette politique-là. Mais cela rentre dans un cadre d'un déséquilibre mondial toujours plus inquiétant. Et il y avait, la semaine dernière, l'Assemblée générale de l'ONU, qui fut encore plus observé que d'habitude dans le contexte, mais qui ne s'est pas joué qu'à New York, puisque finalement, on a beaucoup parlé en marge de cette Assemblée générale de l'ONU, de l'intervention de Poutine, qui a produit un choc. Donc, on va parler de cette Assemblée, cet événement annuel, qui fait plus ou moins parler. On a quand même l'impression d'avoir une litanie de discours plus ou moins écouté. Nous, bien sûr, en France, on a particulièrement écouté celui très, très engagé d'Emmanuel Macron. Mais on peut quand même se poser la question si tout cela a encore un sens. Est-ce que ce n'est pas un jeu de rôle, un spectacle annuel qui revient chaque année sans avoir une vraie influence?
Tu sais, Romain, j'ai, comme tu le sais, été diplomate pour l'Union européenne. Je ne pense pas qu'on peut me soupçonner d'être un pourfendeur du multilatéralisme et d'être trumpien dans mon analyse des relations internationales. Et pourtant, je dois avouer que je suis moi-même quand même parfois très sceptique sur la multiplication des organisations internationales, dont on peut s'interroger parfois sur leur efficacité. On l'avait déjà mentionné lorsqu'on faisait référence et on analysait le discours prononcé par Scholz à Prague, où on voyait il avait fait l'énumération des organisations européennes et c'était assez calamiteux. Je pense que l'immense majorité de nos concitoyens ne connaissent pas la moitié de ces organisations, ce qui pose quand même une question sur leur pertinence et leur légitimité. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même se poser la question aussi de l'efficacité d'une grande partie du système onusien, à la fois de l'ONU en tant que telle, mais aussi de ses différentes agences. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas nécessaire, je pense que, évidemment, c'est fondamental, mais je dis qu'il y a quand même un vrai problème aujourd'hui sur la bureaucratie de cette organisation, son incapacité parfois à décider, son incapacité à prendre des décisions, à intervenir dans des conflits. Et quelque part, l'Assemblée générale des Nations unies, qui se déroule donc chaque année en septembre à New York, et un petit peu l'illustration de ça. Parce que tu as 193 États membres donc, qui se réunissent, et là, c'est une litanie de discours à la tribune de chefs d'État qui souvent disent des choses très convenues, très attendues, qui d'ailleurs, voilà, c'est plus des discours qu'ils font pour leur audience nationale que pour leurs homologues. Et on sait surtout qu'au-delà de l'Assemblée générale des Nations unies, tu as un Conseil de sécurité des Nations unies aujourd'hui qui est complètement paralysé. Juste quelques rappels. Guerre en Syrie, tu as 16 vétos russes, 10 vétos chinois. Un Conseil de sécurité des Nations unies incapable d'agir sur la crise syrienne, mais sur la plupart des conflits que l'on a vus récemment, ça a également été le cas, et évidemment sur la guerre en Ukraine aujourd'hui. Donc au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même une question aujourd'hui sur l'intérêt ce grand raout de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, les diplomates te diraient que l'intérêt, c'est finalement en fait ce qui n'est pas rendu public, c'est-à-dire toutes les réunions bilatérales qui ont lieu en même temps, puisque tu réunis plus de 150 chefs d'État au même moment à New York, dans le même bâtiment. Et donc, évidemment, c'est un lieu très propice à des entretiens séparés, etc. On a beaucoup parlé notamment de l'entretien du président Macron avec le président iranien, mais aussi c'était son premier entretien avec Liz Truss en tant que première ministre. Donc voilà, ça permet ce genre de réunion. Mais sur les discours en tant que tels, moi, je suis un peu plus sceptique. Et puis, je pense qu'il y a quand même une vraie question à poser aujourd'hui,
oui,
sur un grand nombre d'agences.
Sur les discours, donc bien sûr, en France, on a particulièrement observé celui d'Emmanuel Macron, dont un des axes, c'était quand même pas une remise en cause, mais disons une volonté de mettre les non-alignés face à leurs responsabilités. Alors, les non-alignés, on va en parler déjà, comme je le disais tout à l'heure, leur secrétaire général aujourd'hui, c'est quand même le président de l'Azerbaïdjan. Bon, c'est peut-être un détail conjoncturel, mais c'est, à mon avis, c'est quand même assez significatif. Et puis derrière, ces non-alignés, qui représentent un nombre de pays très important par leur population, par leur superficie, beaucoup en Afrique, en Asie, en Amérique latine, il y a quand même toujours une certaine ambiguïté. C'est-à-dire, pendant la guerre froide, les pays non alignés étaient en fait plus que complaisants, voire soutenus par l'URSS, enfin beaucoup d'entre eux en tout cas. Donc voilà, je pense que derrière ces non alignés-là, il y a à la fois une vraie question, quelle est leur place dans l'architecture mondiale, mais en même temps, il y a une grande difficulté pour nous en Occident et en Europe de l'Ouest, comment réussir à garder des relations positives entre eux pour ne pas créer, qu'on parle de Russie, qu'on parle d'Azerbaïdjan, qu'on parle d'autres conflits dans le monde, le sentiment qu'on a Europe de l'Ouest plus États-Unis contre le reste du monde.
Oui, je pense que tu poses très bien la question. Alors, moi, je veux dire quelque chose qui est pas très politiquement correct, mais je pense qu'en diplomatie, dans l'opinion publique, dans les médias, il y a quand même une tendance à, quand ce sont les pays, alors, d'ailleurs, comment est-ce qu'on les appelle ? Les pays du Sud, les pays en développement, le tiers monde, c'est
plus politiquement
correct.
Non, quoi quelques noms que tu choisisses, tu auras un problème.
Voilà. Mais quand ces pays-là prennent des positions, comme sur la guerre en Ukraine, qui objectivement sont scandaleuses, de non-condamnation de la Russie, d'une forme parfois même de sympathie, où ils reprennent les éléments de langage du Kremlin, Nous, en Occident, on n'ose pas vraiment les condamner. Il y a une forme de quasiment « ah, mais entre guillemets, il faut les comprendre, voilà, ils ont même leurs problèmes, etc. » Évidemment, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas le cas. Il y a des crises alimentaires, des crises absolument terribles dans ces pays. Il y a aussi une accusation juste de la part d'un certain nombre de ces pays d'hypocrisie occidentale en disant « mais attendez, vous-même, vous êtes intervenu dans certaines régions, vous avez complètement déstabilisé le Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan, etc. » Et donc, parfois, vous avez un double standard. Là-dessus, ils ont raison. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut quand même être capable de dire de manière plus ferme que depuis le début de la crise en Ukraine, il y a un certain nombre de pays, un pays comme par exemple l'Afrique du Sud, mais un certain nombre de pays africains, ou de juntes militaires comme au Mali aujourd'hui, qui reprennent les éléments de langage du Kremlin, acceptent en fait de devenir complètement dépendants de Moscou en termes de coopération militaire, de se nourrir uniquement de financements chinois, et sont dans une logique de négation de ce qui est en train de se passer, par exemple, aujourd'hui en Ukraine. Et je pense que là où le président de la République, Emmanuel Macron, a eu raison, c'est qu'il a un peu mis le doigt, il n'est pas allé aussi loin, mais il a un peu mis le doigt quand même sur cette question. Et ça m'a fait penser à un très beau texte qui avait été publié il y a quelques mois par un chroniqueur que j'aime beaucoup dans le Financial Times, qui s'appelle Janan Ganesh. Et Janan Ganesh est britannique, mais il est d'origine indienne. On ne peut donc pas le soupçonner, en fait, de mépris à l'égard de pays comme l'Inde ou de certains pays africains, etc. Et lui disait... Il faut pas, son terme anglais était romanticize the global south. Donc voilà, il faut être plus dur. Et lui disait, c'est d'ailleurs aussi une marque de respect à l'égard de ces pays que de considérer qu'ils doivent prendre des positions sur le plan moral qui sont aussi droites et aussi justes parfois que celles adoptées que l'on attend de certains pays occidentaux. Et donc ça, je pense que c'est un point très important et c'est quand même un petit peu ce qu'a essayé de dire le président de la République. Mais juste, je soulignerai un point pour conclure, c'est que je pense qu'il y a quand même aujourd'hui chez un certain nombre de ces pays, dans certaines élites, une prise de conscience, et notamment ce qu'on avait vu quand même la semaine avant, c'est lors du sommet de Samarcande, c'est qu'il y avait quand même eu pour la première fois une condamnation très ferme, notamment du Premier ministre indien Modi à l'égard de la Russie. Il disait que la guerre en Ukraine n'avait aujourd'hui pas lieu d'être et devait cesser. Et on a même senti chez Xi Jinping une volonté, alors même s'il y a d'autres dimensions géopolitiques qui rentrent en jeu, d'être moins complètement aligné avec
Moscou. Une autre question que tu as soulevée tout à l'heure aussi lorsqu'on parlait de l'attitude de l'Union européenne au Caucase, je crois que l'Occident, malheureusement, en partie aujourd'hui, renonce, pour divers courants idéologiques qu'il traverse, à jouer une politique de puissance et d'influence. Je pense que l'Occident s'enferme, et je pense qu'en Europe, on a des bonnes illustrations, dans des débats stériles, dans des débats de repentance, dans des débats qui parfois sont à notre honneur, bien évidemment, en termes de défense de liberté et de grands principes, mais qui s'enferme aussi dans des débats qu'on pourrait mettre sous la bannière du wokisme, si on voulait vraiment résumé en deux mots, qui à mon avis nuisent totalement à notre politique de puissance, même si cela n'a absolument aucun rapport avec la géopolitique internationale. Quelques jours avant le discours, quelques heures même avant le discours d'Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, on avait un ministre français important, celui de l'éducation nationale, qui, devant une université américaine, dénigrait un peu la France, donc même parler de son pays à l'étranger, c'est quand même particulier, en l'accusant de mots comme d'un racisme plus ou moins structurel. Donc je veux dire, c'est que même si ça n'a pas de rapport directement, on a aujourd'hui un rapport à notre identité, à mon avis, en Occident, qui est de plus en plus incompatible avec une vraie politique de puissance. On verra combien de temps cela dure.
Oui, tout à fait. Et puis, je pense que tu as la question des standards moraux, en fait, que tu t'imposes à toi-même et que tu imposes aux autres puissances. Et juste de manière anecdotique, je pense qu'on connaît tous des gens dans notre entourage qui, durant, par exemple, la présidence Trump, disaient « Ah là là, je refuse d'aller aux États-Unis, je refuse de me rendre aux États-Unis tant que Trump est président de ce pays. » Bon, tu me connais, je suis loin d'être trumpiste. Mais en même temps, qui n'avaient aucun problème à aller dans des pays, par exemple, en Ouganda, où l'homosexualité est un crime, etc., et où il y avait des violations de droits de l'homme terribles qui se produisaient, mais qui étaient dans d'autres régions du monde. Donc je pense qu'il y a aussi cette question où notre opinion publique, nos médias et donc notre diplomatie doivent aussi réfléchir à cette question du double standard qu'on applique parfois en termes de moralité et qui, à mon avis, infuse une politique étrangère qui, paradoxalement, derrière, à mon avis, manque d'efficacité.
Difficile de vision cumuler stratégique. Haine de soi et politique de puissance.
Tout à fait. Mais Romain, on a beaucoup parlé de géopolitique, l'actualité s'y prêtait, Mais comme nos auditeurs le savent, tu es un homme de médias, tu as dirigé Vice en France, tu es un expert de ce secteur. Or, il y a eu une actualité extrêmement importante récemment dans ce secteur, puisque ça a été l'échec de la fusion, annoncée pourtant depuis longtemps, entre les deux géants français, TF1 et M6. Donc, c'était une opération qui avait été soumise à l'autorité de la concurrence dès mai 2021. On savait immédiatement que ça poserait des vrais sujets en termes de concurrence, notamment sur le marché de la publicité. Néanmoins, il y avait cette volonté dès le début de présenter ça comme, en combinant deux champions nationaux, on est capable de créer un champion capable à terme de rivaliser sur le streaming, dans certains domaines que tu vas nous décrire, face à l'émergence des plateformes, notamment Amazon, Disney+, Netflix. Et pourtant, aujourd'hui, cette fusion tombe à l'eau. Quel est ton décryptage aujourd'hui, pour toi, qui connais très bien ce secteur, sur à la fois les motivations derrière cette opération et les conséquences aujourd'hui?
Alors oui, c'est effectivement un événement très important, puisque c'était quand même présenté comme l'événement média, un des trois événements dans les médias majeurs de cette année, avec la réforme de France Télévisions et de Radio France d'une part, et d'autre part avec tous les mouvements qui peuvent exister, notamment dans l'édition entre Vivendi et Lagardère, également soumis aux avis des autorités de la concurrence nationale comme européenne. Donc, c'est une question très importante, au-delà des choix d'entreprise, puisque depuis 10-15 ans, en fait, on assiste à une transformation radicale du secteur des médias. C'est le cas de beaucoup de secteurs, mais le secteur des médias, c'est vraiment très fort, très significatif. Transformation, bien entendu, là aussi, liée à l'émergence du digital. Avec trois points, à mon avis, qui sont très importants dans le cadre de cet événement. Tout d'abord, l'évolution du marché publicitaire, qui est bien entendu au cœur du modèle de chaînes gratuites comme TF1 et M6. Il y a eu une année de bascule au niveau mondial, en 2016, quand pour la première fois aux États-Unis, les revenus de la publicité digitale ont dépassé ceux de la télévision. Parce que pendant des décennies, la publicité passait avant tout par la télévision, un peu par la radio, un peu par la presse. Mais c'est la télévision. Aujourd'hui, le digital est supérieur. Et puis, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui aux États-Unis, les revenus de la publicité sur les moteurs de recherche, en l'occurrence surtout Google, dépassent ceux de toutes les chaînes de télévision aux États-Unis. Donc tu arrives vraiment dans un certain déséquilibre. Donc nous rentrons au marché mondial dans une situation qui est largement duopolistique, avec deux acteurs clés, Google, Facebook et dans une moindre mesure Amazon. Premier point. Deuxième point, on a assisté à l'émergence des plateformes, qui ne concerne pas uniquement que la télévision, que les contenus gratuits, qui concerne également les contenus payants et bien sûr les contenus réalisés par les utilisateurs, qui ont imposé de nouveaux standards en termes d'acquisition et d'amortissement des coûts. On dit souvent que la valeur, enfin l'étalon d'une plateforme, c'est le milliard d'utilisateurs ou d'abonnés, histoire d'avoir une masse critique capable d'être assez puissante pour financer, pour faire des acquisitions, pour amortir les coûts et pour faire voyager les contenus. Et ces plateformes, qu'il s'agisse de contenus payants ou gratuits, captent du temps d'attention et donc des revenus aux acteurs traditionnels. Et c'est très difficile au niveau européen et français d'avoir des plateformes qui ont cette taille critique. La seule, en fait, plateforme qui a cette taille critique, grâce à une politique depuis quelques années très ambitieuse d'acquisition et d'implémentation au niveau mondial, c'est Canal via sa plateforme aussi MyCanal. Voilà. Et enfin, la multiplication des plateformes et des réseaux de diffusion a entraîné, jusqu'au Covid tout du moins, mais ça continue aussi, une course au contenu, et des contenus toujours plus chers, d'où un besoin de puissance et de taille critique. Et cette fusion entre TF1 et M6 rentrait tout à fait dans cette logique, parce qu'encore une fois, dans ce contexte, aucun de nos acteurs n'a une taille critique pour être compétitif au niveau mondial. On comprend le besoin de concentration, et on peut être surpris et tiqué lorsque les autorités de la concurrence, qu'elles soient européennes ou nationales, font état d'abus de position dominante pour nos acteurs locaux, qui semblent si fragiles face à Netflix, Amazon, et qui apparaissent moins influents, en tout cas moins hégémoniques que ces grands acteurs, souvent américains, mais aussi aujourd'hui asiatiques. Donc voilà pour le contexte global qui explique la logique. Cependant, et c'est un point, je pense, qui peut nous intéresser vraiment tous les deux, et qui intéresse aussi beaucoup de nos auditeurs qui, en tant que téléspectateurs, sont confrontés à cela, dans le cas TF1 M6, on faisait face à une situation un peu différente. Déjà parce que, je ne vais pas reprendre tous les arguments de l'autorité de la concurrence qu'on peut facilement lire sur Internet, mais on était dans une position très dominante sur le marché local de la publicité. Or, la publicité sur la chaîne gratuite est quand même une dimension extrêmement locale aussi, avec donc un risque pour les annonceurs. Ces chaînes gratuites ont aussi un marché de contenu très local, d'où une tension pour des producteurs et des vendeurs de droits. Et puis, il y avait peut-être, mais ça c'est aussi de la communication, un storytelling pas assez puissant sur l'ambition internationale et notamment européenne du projet, qui semblait avant tout franco-français.
Alors, c'est intéressant parce que tu parles d'ambition européenne. Nous sommes dans une période où on nous parle beaucoup, et on a débattu d'ailleurs de ce concept de souveraineté européenne. Souveraineté européenne dans l'industrie, souveraineté européenne en matière de défense, souveraineté européenne en matière de politique étrangère. Mais il y a quand même une souveraineté européenne en matière de culture, en termes de contenu, en termes de médias. Qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui au niveau européen ? Est-ce qu'il y a des politiques de quotas, etc., et, qui nous permettent justement de préserver cette indépendance culturelle européenne, cette souveraineté européenne ? Et deuxièmement, dans quelle mesure aujourd'hui on pourrait articuler à la fois une politique, on va dire, de concurrence qui permette de préserver sur le marché national un marché publicitaire dynamique et concurrentiel, et en même temps, une nécessité quand même d'être capable de rivaliser avec les grandes plateformes, juste à titre anecdotique, mais je voyais que récemment, Netflix a investi dans simplement une saison d'une série, l'équivalent du budget total de France Télévisions pour l'ensemble de sa production sur l'ensemble de l'année. Et donc je pense que tout était résumé un petit peu dans cette anecdote, et par ailleurs, les plateformes ont annoncé récemment, et notamment Netflix, des projections de revenus publicitaires en France extrêmement élevées à très court terme.
Oui. Ben c'est voilà, on rentre dans ce qu'on parle, ce qu'on évoquait il y a quelques minutes. Ce besoin de taille critique, aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur de taille critique européenne au niveau mondial, à part encore une fois Canal+ et Vivendi. C'est quand même une vraie question pour nous. Je sais que cette question de la souveraineté t'intéresse et on en parle souvent. Je ne sais pas si, en l'occurrence, c'est le mot souveraineté qui convient, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de l'influence et de la capacité, c'est à la fois notre soft power européen, français, à l'international, continue à raconter nos histoires. Et puis, sur le marché local, tout simplement, question purement économique, avoir des acteurs locaux qui permettent de créer du travail en France et d'avoir une technologie, on va dire, européenne. Moi, je pense que là, la réponse ne viendra pas d'en haut, clairement. Que parfois, il y a... des hommes politiques qui disent « créons le Google européen ». Non, ça ne marchera pas comme ça, bien évidemment. C'est condamné à l'échec. En revanche, le régulateur, et là, je vais aller dans ton sens, parce que je pense que l'Europe a vraiment un rôle à jouer, et joue d'ailleurs plutôt bien son rôle, le régulateur...
Nous y arrivons,
le législateur peut créer des normes qui sont assez protectionnistes, il faut le dire, mais qui sont protectionnistes d'un intérêt culturel. Aujourd'hui, il y a des quotas. Il y a des quotas de diffusion, il y a des quotas de production. Ils changent, ils peuvent varier selon les pays, mais il y a quand même, on ne va pas rentrer dans le détail pour nos éditeurs, mais toutes les plateformes, quelles qu'elles soient, Netflix, Amazon, donc même extra-européennes, ont l'obligation de dédier une partie de leur budget à la production européenne, ce qui crée une manne, alors il ne faut pas non plus penser que c'est un Eldorado, mais ce qui est quand même une opportunité pour les producteurs européens de pouvoir travailler et d'avoir des fenêtres de diffusion sur ces plateformes. Donc ça, c'est bien évidemment très positif, cela concerne plus la production et donc les contenus que la distribution et les tuyaux. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur une plateforme comme MyCanal. C'est pas parce que je suis l'ancien Canal et que je suis attaché à cette entreprise. C'est, je pense, qu'ils ont fait un travail fondamental. Déjà, la plateforme est excellente, mais au-delà de ça, c'est un de nos rares champions européens là-dessus. Et aujourd'hui, cette plateforme voyage dans le monde entier, très puissante en Afrique et dans certains pays d'Asie, ainsi qu'en Europe de l'Est. Donc voilà, donc ça, je crois que c'est des champions qui arrivent. C'est des volontés de grands industriels qui répondent davantage à des grandes visions. On parle beaucoup de Vincent Bolloré, mais depuis qu'il a repris Vivendi, la volonté de créer un champion européen, c'est au centre de tous ses discours et de ses actions. Et ça continue aujourd'hui avec également Yannick Bolloré. Donc voilà, je pense que ces grands acteurs industriels qui peuvent faire la différence. Je crois qu'on a besoin d'Europe pour créer des normes, bien évidemment, et on a aussi besoin de la part des décideurs politiques ou administratifs qui ne viennent pas mettre des bâtons dans les roues de ces grands industriels.
Merci Romain, C'est passionnant et je pense que cette articulation, notamment entre, à terme, politique de la concurrence et capacité à bâtir des champions européens dans un contexte où, même si c'est peut-être pas le terme qui s'applique le plus au monde des médias, mais il faut bâtir une indépendance européenne plus forte, une souveraineté européenne plus forte, je pense qu'on aura beaucoup d'occasions de revenir dans cette dimension-là.
Oui, attention à ne pas, par idéologie, notamment liée à la concurrence, scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Ce qui peut nous mener, d'ailleurs, à propos de branche, à nos coups de cœur de la semaine.
La transition est belle.
La transition est belle, car on va parler de choses assez locales, et notamment toi, Jérémy, qui voulais parler d'une initiative culturelle en Auvergne, chez toi.
Oui, tout à fait. Je voulais parler d'une très belle exposition qui a lieu en ce moment à Moulins-sur-Allier, au Centre National du Costume de Scène, et qui, à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, revient sur les costumes utilisés par Molière et sa troupe. Alors, je dis deux mots à la fois de Moulins et du Centre National du Costume de Scène. Moulins, c'est une ville, moi, qui m'est très chère, parce que c'est à côté de là où j'ai grandi, c'est à la préfecture de l'Allier, ce département, donc terre du Bourbonnais, au nord administrativement de la région Auvergne. Et en 2006, et ça, c'est un exemple de décentralisation culturelle réussie, et toi et moi, on est extrêmement attachés à cela, une ancienne caserne militaire du XVIIIe siècle, un très beau bâtiment qui allait être détruit ou abandonné grâce à la volonté des acteurs locaux et notamment du maire Pierre-André Périssol de Moulins, a été transformé et est devenu le Centre National du Costume de Scène, qui a été la première institution en France à en fait réunir l'ensemble des costumes, à la fois de l'Opéra National de Paris, de la Comédie Française, mais aussi toutes les archives liées à l'art du costume de scène de la Bibliothèque Nationale de France, à Moulins, dans ce bâtiment qui a été rénové de manière magnifique et qui aujourd'hui abrite des collections superbes. Tu as une exposition permanente, notamment consacrée à Rudolf Nureyev, donc l'un des grands danseurs du XXe siècle, comme tu le sais, un ensemble de biens donc qui retrace son parcours, de costumes sont exposés. Et puis, il y a eu plus de 30 expositions temporaires à Moulins, donc au Centre National du Costume de Scène, depuis son ouverture en 2006. Des expositions magnifiques, une consacrée par exemple au costume de Christian Lacroix, qui est un grand couturier, mais aussi un grand costumier, président du conseil d'administration du centre. Une autre, par exemple, consacrée au costume des Mille et Une Nuits, aux opéras russes, à l'art du costume à la Comédie Française, ou plus récemment, une exposition magnifique l'année dernière consacrée au Carnaval de Rio. Bref, le lieu est magnifique, l'exposition est superbe, et puis c'est une occasion de vous rendre à Moulins-sur-Allier, qui est une ville un peu méconnue, mais absolument magnifique, historiquement capitale des Ducs de Bourbon, une ville avec des hôtels particuliers superbes, d'autres petits musées qui sont des bijoux, notamment, il y en aurait beaucoup à mentionner, mais le musée Anne de Beaujeu, le musée de l'illustration de la jeunesse. Lorsque les trains ne sont pas en retard, parce que c'est sur cette fameuse ligne de train Paris-Clermont, ça n'est pas si loin, c'est à 2h30 de Paris, et donc pour un week-end, c'est une destination formidable. Profitez de la campagne aux alentours, qui est une campagne absolument superbe.
Est-ce qu'on y mange bien ?
On y mange très bien, et donc vous avez tous les ingrédients pour un très beau week-end à Moulins. Mais toi, je crois, Romain, que tu as un coup de cœur qui est, lui, complètement différent, puisque tu voulais nous parler d'un coup de cœur cinématographique.
Oui, alors qui est différent, mais qui a quand même un lien, puisque le film dont je vais parler a remporté l'an dernier, parmi de très nombreuses récompenses, le César des meilleurs costumes. Donc peut-être qu'ils seront exposés prochainement à Moulins sur Allier. Je parle de ce film qui est très connu, puisqu'il a eu un grand succès critique et populaire, qui est Illusion perdue de Balzac, qui d'ailleurs a été réalisé par le cinéaste d'origine corse, Xavier Giannoli. Donc, il s'agit de l'adaptation d'un de mes livres préférés. Et puis, il faut noter qu'il a eu un grand succès au cinéma, malgré une période très néfaste pour le cinéma, qui était la période post-Covid. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu, quand même, et qui vont pouvoir le voir maintenant, puisque depuis quelques jours, ce film est disponible sur Canal+ et MyCanal, où je pense qu'il va très bien marcher. Et je voulais parler de ce film aussi par rapport à notre discussion que nous venons d'avoir sur les médias, parce que c'est ça qui est très frappant, aussi bien dans le livre, mais de manière, on va dire, qui permet de le vulgariser encore plus dans le film. Presque 200 ans après l'action, le monde des médias que décrit Balzac est toujours aussi pertinent. Et Giannoli insiste très bien là-dessus, grâce à sa réalisation très, très astucieuse et les très bons dialogues. Parce que les ressorts humains, en fait, dans les médias, restent tout à fait les mêmes. Ce sont finalement les Si je prends le côté un peu sombre, il y a aussi des côtés très positifs, mais si je prends le côté sombre, les mêmes mesquineries, les mêmes manipulations, les mêmes jeux de rôle, les mêmes rapports de force aussi, au profit bien sûr de souvent des puissances financières, les mêmes artifices qui permettent, qui arrivent à faire, à défaire des destins indépendamment des talents des protagonistes, la même vacuité de certains influenceurs, et puis aussi, il faut le dire, on le voit très bien dans le livre comme dans le film, le même mépris de classe d'une partie du monde parisien, parfois pour la province. Donc c'est vraiment un film remarquable, avec des acteurs exceptionnels. Je pense que c'est très bien joué, des très bons costumes, on l'a dit, des très bons choix musicaux également. C'était vraiment un grand défi d'adapter à l'écran un roman aussi fabuleux, foisonnant, qu'est Illusion perdue, mais je trouve que c'est assez bien fait. C'est assez rare que je sois aussi en phase avec les verdicts des prix et des Césars en particulier. Mais là, nous avons vraiment affaire à du formidable cinéma, très bien joué. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de le voir au cinéma, il y a une très belle séance de rattrapage sur MyCanal. Et puis, espérons aussi que ça donne envie de se replonger dans le livre, parce que le film n'est qu'une adaptation de cette deuxième partie du roman de Balzac, un grand homme de province à Paris. Il y avait également une partie Angoulême, puis une partie un peu finale qui ne peut pas être traitée. On ne peut pas traiter la totalité d'un roman aussi vaste.
Mais merci beaucoup, Romain. Et je pense que les deux provinciaux que nous sommes avons été très marqués par les illusions perdues.
Alors, la Corse
est-elle la province ? C'est une vaste question
et on en reparlera peut-être une prochaine fois.
Voilà,
oui,
voilà.
Tout à fait.
Merci Romain, en tout cas. C'est terminé pour cet épisode. Nous nous retrouverons dès mercredi prochain. Bonne semaine à vous.